33 9 693 693 70.
Jean-François Cadet.
Bienvenue, si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité, c'est vendredi, vous avez l'habitude, les sujets sont libres, vous n'hésitez pas bien sûr à nous appeler, vous connaissez le numéro 33 9 693 693 70. Et pour commencer, nous partons au Burkina Faso, plus précisément à Bobo Dioulasso, avec vous Aruna, bonjour.
Bonjour, monsieur Kadé.
Vous avez souhaité revenir sur la tournée du président ghanéen à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, John Dramani Mahama, qui a parlé, je cite, de la réalité irrévocable de l'Alliance des États du Sahel et qui ajoute que la reconnaissance de l'AES par la CDAO est une nécessité. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Aruna?
Alors, écoutez, vous conviendrez avec moi également que cette tournée a pour premier objectif pour le président John Dramani Mahama de parfaire ses relations avec l'AIS en premier lieu. Il faut retenir que le Ghana et les trois pays de l'AIS entretiennent des relations historiques depuis belle lurette. Et ça n'a pas commencé sous le règne de John Dramani Mahama ni quand même sous le règne des trois militaires. Alors, donc la première intention de John Dramani Mahama était de sauver les relations qu'il y a entre ces pays. Et au deuxième lieu, il faut retenir que ces trois pays sont un gros client des ports du Ghana. Et il faut également essayer de mettre en place un système pour ne pas les perdre ou du moins diminuer l'affluence de leurs marchandises, etc. Alors, donc, il faut savoir que Le fait de venir d'abord pour négocier l'AIS, le retour de l'AIS à la CDAO, était juste enfoui dans plusieurs ordres du jour. Donc voilà pourquoi il faut retenir qu'il fallait d'abord oser les tempéraments de ces présidents. Et je me suis dit que John Dramani Mahama a fait face à la réalité. C'est ce qui l'a amené à parler d'abord de la reconnaissance de l'AIS. Mais reconnaître l'AIS, pour moi, n'est pas comme, une peine perdue pour le retour de ces pays au sein de la CDAO.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la CDAO doit réintégrer les pays de l'AES?
La CDAO peut les accepter en tant que AIS. L'AIS est une alliance militaire parce qu'ils ont les mêmes objectifs, ils souffrent des mêmes maux qui est l'insécurité. Et en ce moment, ça pourrait, à un moment donné, enrichir même d'ailleurs la CDAO, parce que non seulement l'AIS va expérimenter certaines choses qu'elle va se déporter en sujection au niveau de la CDAO, afin d'enrichir et de parfaire peut-être ses actions. Vous voyez que la CDAO aujourd'hui est mal en point, vu les actions ou les décisions qu'elle-même elle prend, qui ne conviennent pas parfois avec même l'humeur même des peuples. On a dit la CDAO des peuples, mais apparemment la CDAO se préoccupe plus du bien-être des présidents que celui des peuples. Et quand vous regardez, elle a commencé à échouer depuis très longtemps et nous, on a signalé ces choses. Nous, politologues et techniciens politiques, on a signalé qu'il fallait à un moment donné recadrer les tirs. Sinon, à un moment donné, ça va être très difficile pour cette organisation d'intervenir dans un pays.
Restez en ligne, Aruna. Je voudrais qu'on prenne l'avis d'Adama qui nous appelle de Dakar. Bonjour Adama.
Bonjour RFI.
Vous êtes burkinabé et nigérienne, mais vous vivez donc au Sénégal. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Aruna?
Bon, pas tout à fait. Il y a des parties de son intervention que je partage, mais je voudrais quand même rappeler que le président du Ghana n'est pas allé à titre personnel faire cette tournée, et ni au nom de son pays, mais plutôt au nom de la CDAO. Ouais. Voilà, donc...
Il n'a pas reçu de mandat officiel de la part de la CDAO.
Oui, mais pas de mandat officiel, mais pour lui, c'est le retour au sein de la CDAO. C'était ça l'objectif.
Mais justement, pour vous, Adama, l'avenir de l'AES s'inscrit avec la CDAO.
Oui, tout à fait, parce que ceux qui sont aujourd'hui dirigeants de la CDAO ou de l'AES, ceux-là, disent qu'ils sont panafricains. Alors, à ce titre-là, je suppose que une communauté, une organisation comme la CDAO, qui est un outil d'intégration, ne peut que être quelque chose de bien pour eux.
Mais est-ce
qu'ils sont panafricains.
Mais est-ce que la CEDEAO a les moyens d'agir avec efficacité en matière de sécurité, par exemple, à Dama?
Ah, tout à fait, tout à fait. On est toujours plus efficace quand on est ensemble. Ce n'est pas en morcelant la CEDEAO qu'on va avoir plus d'efficacité. Moi, à mon avis, ils ont deux problèmes avec la CEDEAO. Le premier problème, c'est qu'ils estiment qu'il y a des membres de la conférence des chefs d'État qui ne sont pas des bons élèves, n'est-ce pas, en matière de démocratie et de gouvernance. Je conçois cela. Leur deuxième problème, c'est qu'ils ont violé eux-mêmes des règles de la CEDEAO au niveau du protocole additionnel en matière d'accession au pouvoir. Et c'est ça que les gens ne veulent pas dire. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Ils ont violé des règles de la CEDEAO et leurs États sont des États qui ont quand même accepté le consentement d'être liés par ces règles-là. Alors, quand vous violez les règles d'une organisation, c'est trop facile de dire, écoutez, moi je quitte, je m'en vais, comme ça je suis sûr que je n'aurai pas les sanctions d'avoir violé les règles de cette organisation. Alors moi je pense que vraiment, et la CEDEAO et les États qui sont séparatistes gagneraient bien à s'entendre et à revenir sur la table de négociation, parce que c'est pour le bien de tout le monde, c'est pour le bien des peuples, et c'est le bien des États de la CEDEAO.
Une réaction, Haruna?
Bon, je pense que ici nous avons deux poids deux mesures. Hein. Bon, je voudrais un peu rectifier l'intervention de mon cher frère. Il faut d'abord retenir que John Dramani Mahama n'est pas venu avec une feuille de route dans l'AIF, bien notifiée par la CEDEAO. Et c'est ce que j'ai dit. Et la CEDEAO n'a fait simplement que dévier cette visite à son compte. Parce que John Dramani Mahama avait bien programmé de rendre visite au président de l'AIF. Et la CEDEAO s'est rapidement saisie en déviant cette visite d'abord de passer par la Côte d'Ivoire afin d'être notifié, d'être mandaté peut-être verbalement. Comme vous l'avez même souligné, il n'est pas venu avec un mandat bien écrit par la CEDEAO. Alors maintenant, ici, là où je partage l'idée de mon cher Adama, c'est parce que sincèrement, moi sincèrement, je suis au Burkina, mais je répète et je le dis haut et fort que la CEDEAO est l'organisation la mieux réussie en Afrique. Elle est l'organisation, la meilleure organisation à laquelle le Burkina est appartenu. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est le laxisme de certains chefs d'État qui ont fermé les yeux lors de certaines pratiques. Je souligne un exemple en 2014 au Burkina, lorsque Blaise Compaoré voulait changer l'article 37 pour se présenter encore, après avoir passé plus de 27 ans au pouvoir, la CEDEAO n'a rien fait pour empêcher cela. Mmh. Il a fallu que le peuple prenne ses responsabilités et la classe politique pour déjouer cela. Là, c'est pourquoi, depuis ce temps, j'ai dit, un échec en rappelle toujours un autre. Et c'est ça qui a conduit en Guinée, en Côte d'Ivoire, on a vu toutes ces choses-là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, les gens prennent les muscles devant la CEDEAO parce qu'elle n'est plus crédible. Elle ne pose pas des actions et qui partent, qui vont réellement vers le bien-être du peuple. Elle pose des actions toujours pour sauver le siège d'un président, peut-être qu'il est plaît ou pas.
On a bien compris votre position. Merci beaucoup à tous les deux, à Haruna et Adama. Et pour l'instant, en tout cas, les autres dirigeants des pays de la CEDEAO n'ont pas réagi officiellement aux déclarations du président ghanéen. Bonne journée à Bobo Dioulasso et à Dakar. Avant de partir en Afrique centrale, et plus précisément au Gabon, on reste en Afrique de l'Ouest, on part à Abidjan. Bonjour Barthélémy.
Oui, bonjour à nos amis de RFI.
Chez vous, en Côte d'Ivoire, on se projette de plus en plus vers la présidentielle du 25 octobre prochain. L'opposition s'organise avec le lancement lundi dernier de cette coalition de 15 partis, baptisée Coalition pour une alternance pacifique Cap-Côte d'Ivoire. C'est une initiative que vous saluez positivement, Barthélémy?
Oui, en fait, je voudrais dire qu'effectivement, j'ai salué cette initiative en prenant la métaphore du sport. Vous savez, en matière de sport, il faut forcément deux équipes. Alors, une équipe qui a on va dire, le trophée, met en place des stratégies pour défendre ce trophée-là. Et l'équipe adverse s'organise pour pouvoir conquérir ce trophée-là. C'est ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons le parti au pouvoir, bien évidemment, veut défendre son trophée, ce qui est tout à fait naturel et logique. Mais en face aussi, il faut que l'opposition, effectivement, s'organise pour constituer un bloc pour aller conquérir ce trophée qui est donc le pouvoir.
Et se mettre d'accord sur le nom d'un seul candidat ?
Pas forcément sur le nom d'un seul candidat, toute la stratégie en fait. Parce qu'il y a la stratégie et puis il y a la tactique. Donc de manière stratégique, il est donc bon que d'abord ils puissent se mettre ensemble comme ils l'ont fait, en créant la coalition pour la tendance pacifique. C'est une très bonne chose. Donc déjà se rassembler, se mettre ensemble et puis identifier les points qu'ils pensent être communs, qu'ils peuvent défendre et se présenter. Il leur appartient, quand les élections vont commencer, d'affiner cette stratégie ou cet article. C'est de plein droit. Mais moi, de mon point de vue, je pense que c'est déjà bon que 15 partis politiques de l'opposition puissent coaliser comme ils l'ont fait et puis ensemble réfléchir. Voilà. Et cela permet en même temps d'attirer l'attention sur les égos des uns et des autres. À un moment donné, il faut savoir taire ses égos et regarder l'intérêt général. S'ils veulent conquérir vraiment le pouvoir d'État, donc le trophée, il leur appartient d'être vraiment sérieux dans ce qu'ils font. Donc je suis d'accord avec cette initiative-là, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne. Maintenant, il leur appartient d'effectivement être sérieux dans ce qu'ils font. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a cette manie, au niveau même de la politique de l'opposition, qui n'est pas sincère. Chacun veut forcément se positionner en tant que leader.
Alors donc, justement, on va prendre l'avis de Max Barthélémy, si vous permettez. Max, qui nous appelle également de la capitale économique ivoirienne. Bonjour Max.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous croyez à l'utilité pour elle-même de cette coalition de l'opposition en Côte d'Ivoire ?
Alors personnellement, absolument pas. Parce que là, on est en face de vraiment des partis politiques très hétéroclites, avec des courants politiques complètement différents. Entre le PDCI et ADA, qui est plus un parti de droite, avec en face le parti de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, le COGEP et le parti de Madame Simone Veil Babo, qui sont également des partis de gauche. Je vois très mal comment est-ce que c'est toute cette coalition-là pourrait trouver un programme commun afin d'aller battre le parti au pouvoir. D'autant plus que là on est à 7 mois des élections. Le temps est très court pour pouvoir s'organiser. On a l'un des plus gros partis de gauche qui est le PPACI qui ne fait pas encore partie de la coalition. Pour moi, il rentre dans quelque chose qui sera vraiment très 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 compliqué à mettre en œuvre, quoi.
Oui, Barthélémy, l'absence effectivement du PPACI de Laurent Gbagbo dans cette alliance, est-ce que ce n'est pas de nature à plomber son succès ?
Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que toute la stratégie, comme je le disais. Si du coup l'opposition bat toutes ses cartes, finalement, on n'aura pas les projecteurs sur eux. Donc je pense que c'est une manière stratégique que le PPACI, qui connaît sa position, qui connaît sa force sur le terrain, de se mettre un peu en retrait. Je pense que tout est stratégique. Voilà. Et je ne suis pas totalement d'accord avec mon prédécesseur quand il dit que ce n'est pas possible. Eux-mêmes l'ont dit, ce n'est pas une coalition d'idéologie. Ils ont dit que c'est une coalition, qui n'est pas idéologique. Donc, ce n'est pas une coalition où chaque chapelle politique vient présenter son idéologie. Voilà. Donc, déjà, de ce point de vue, je ne partage pas totalement l'avis de mon prédécesseur. Comme je l'ai dit, chacun a fait ses armes pour pouvoir aller à cette élection-là. Donc si le PPACI se met légèrement en retrait, certainement qu'ils vont rejoindre la coalition, je me le dis. Parce qu'effectivement, il faut construire un véritable bloc. Il faut qu'on ait deux équipes et engager la compétition, il faut deux blocs. On a le pouvoir qui est déjà un gros bloc. Si l'opposition veut vraiment détrôner ce gros bloc-là, il paraît plus que nécessaire de se mettre ensemble. Donc je suis convaincu que certainement les uns et les autres vont taire leur égo, parce que c'est une question de leadership aussi, parce que c'est le PDCI-RDA qui a invité, on va dire, tous les autres partis au sein même du PDCI. Alors que le PPACI estime certainement, je suis dans leur esprit, ils estiment que c'est eux le parti naturel d'opposition en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'opposant historique, donc normalement c'est qui devait être à tête de l'opposition. Oui, la preuve est qu'il a même lancé en son temps un appel de Benoît. Donc c'est vraiment ça, mais je pense que finalement ils sont assez matures, ils ont encore en mémoire ce qui s'est passé en 2011 et les Ivoiriens n'aspirent qu'à la paix. Donc je pense qu'ils se mettront ensemble et puis comme ils l'ont eux-mêmes dit, coalition pour la tenance pacifique, le mot pacifique m'intéresse.
Donc et Max, donc, visiblement vous... Merci Barthélémy et Max. Visiblement, vous ne partagez pas ce sentiment de maturité de ces partis politiques d'opposition ivoiriens.
Non, je ne le partage pas du tout, parce que déjà, la première chose au niveau de cette coalition-là, de cette nouvelle coalition, leur premier objectif, c'est la révision de la liste électorale. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont en face d'eux l'organe technique qui répond depuis plusieurs semaines que c'est pas possible de faire la révision de la liste électorale techniquement, parce qu'ils n'auront pas, parce que déjà, la révision qui a eu lieu sur 2024 aura des résultats sous le mois de juin 2025. Donc, déjà, à ce niveau-là, en 7 mois, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils seront capables de faire plier, oui. en tout cas de faire trouver des solutions à la commission électorale électronique pour faire passer leurs revendications majeures? Je me pose des questions.
Eh bien, l'avenir le dira. Merci beaucoup, Barthélémy et Max, d'avoir été en ligne avec nous, David Jean. On passe à l'autre actualité préélectorale du moment, le Gabon. Brice Nestor, bonjour.
Bonjour, RFI.
Vous nous appelez de Libreville. Le scrutin aura lieu dans moins d'un mois maintenant, hein, le 12 avril. Vous attendez notamment le résultat du recours que Jean-Rémy Yama a déposé devant la Cour constitutionnelle suite au rejet de son dossier de candidature. Vous espérez qu'il obtienne gain de cause, c'est bien ça?
Bon, logiquement, on espère qu'il obtienne gain de cause. Personnellement, je pense que Jean-Rémy Yama devait être candidat, dans la mesure où sa candidature, d'après ses dires, ses compères, sa candidature respectait toutes les clauses, sinon toutes les conditions nécessaires pour être éligible, pour être candidat à la future présidentielle. Donc ça, si jamais ça ne se concrétisait pas, nous allons toujours penser, sinon la majorité des Gabonais penseraient que nous sommes toujours dans les mêmes pratiques que nous avions réunies avec le PDG d'hier, qui, toujours, dans les conditions peu démocratiques, arrive toujours à éliminer des adversaires très gênants pour le pouvoir en place.
Donc ça veut dire que, si je vous comprends bien, Brice Nestor, ça veut dire que la candidature de Yama est indispensable pour garantir la sincérité démocratique du scrutin.
Exact. La candidature de Jean-Rémy Yama est très indispensable pour garantir le processus démocratique, sinon l'élection présidentielle, qui certainement verra triompher le général président Oligui. Mais il faudrait quand même qu'il y ait une vraie adversité, parce que M. Yama fait une offre politique qui est très différente de celle proposée par le tenant du pouvoir actuel. Lui, il est dans la continuité, il voudrait sinon poursuivre comme le PDG, mais le président Yama nous propose une alternative, une rupture absolue. Cependant, je ne dis pas que je serai pour Yama. Bien sûr, Oligui a été très courageux en nous débarrassant du régime très dictatorial du président Ali Bongo. Mais il serait quand même mieux qu'il soit élu de façon raisonnable, démocratique,
Merci.
Face à une adversité au moins raisonnable.
Merci beaucoup, Brice Nestor. Et on reviendra d'ailleurs en profondeur dans le débat de lundi. Juan Gomez vous donne d'ores et déjà rendez-vous. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions. Avant de se quitter, on part à Brazzaville avec vous, Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez voulu rebondir sur le débat d'hier à propos du football sur le continent. Et vous avez voulu revenir plus précisément sur la décision de suspension prise par la FIFA à l'encontre du Congo pour cause d'intrusion du pouvoir politique. C'est une décision que vous trouvez logique ?
Bon, la décision peut être logique dès lors qu'elle cadre avec les textes de la Fédération internationale de football. Et le Congo, en adhérant à la Fédération internationale de football, je crois qu'il a abandonné une partie de sa souveraineté en matière de football pour obéir au texte de la FIFA. Donc, sur ce principe, il n'y a rien à faire. Donc, la déclaration de la FIFA, la décision de la FIFA vis-à-vis de la FECOFOOT n'est que normale, parce qu'elle a constaté qu'il y a des choses qui n'allaient pas au niveau de la Fédération congolaise.
Oui, donc c'est une grosse frustration, j'imagine, pour vous. Est-ce que ça peut être l'occasion, justement, de repartir sur des bases plus saines?
Effectivement, c'est l'occasion de repartir des bases plus saines. C'est là où peut-être intervient la posture officielle du gouvernement dite par le ministre des Sports, pour qui ça pouvait permettre au Congo de tout remettre à plat, de prendre le temps de réfléchir, de mieux réorganiser et pour aller sur la nouvelle base, comme cela aurait déjà été le cas. Bon, ça a été le cas en 1968, quand le Congo partait de fait en défaite, alors il a été décidé par le gouvernement qu'on arrête d'abord de la participation.
Merci.
Là, c'est le gouvernement qui avait décidé, et non
merci
la
beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Blanchard, et n'oubliez pas évidemment le rendez-vous de ce soir, Radio Foot International.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.